Au nom de la Bibliothèque publique d'information, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être venus nombreux pour ce nouveau colloque consacré au genre et aux sexualités. Il s'inscrit dans un cycle qui portait sur le féminisme, avec les deux premiers volets, le premier consacré aux luttes des années 70, puis les enjeux actuels du féminisme. Au cours de ces débats et discussions, il est apparu que la catégorie femme posait question, notamment à l'occasion des débats sur la parité, sur la représentation politique des femmes, mais également à travers les tendances mêmes des mouvements féministes, les différentes théories. D'autre part, la sexualité avait été peu abordée, alors que c'était un thème majeur du mouvement de libération des femmes. Nous avons donc souhaité approfondir ces sujets et vous proposer des travaux de recherche particulièrement stimulants, ainsi que des points de vue de diverses associations. Nous avons préparé ce colloque avec Elsa Dorlin et Eric Fassin, que je remercie pour leur participation et leur disponibilité. Nous avons également travaillé avec Maxime Goguet, qui a été stagiaire sur ce projet et qui a réalisé notamment la bibliographie que vous trouverez, vous avez pu voir à l'entrée de la salle. Par ailleurs, deux petits points pratiques. Les débats sont enregistrés et ils seront diffusés dans un délai d'environ 3 semaines sur le site de la BPI, donc bpi.fr, dans la rubrique ressources documentaires, archives des débats, et également une sélection sur la web radio de France Culture, Les Chemins de la Connaissance. Par ailleurs, la librairie Flammarion, qui se trouve dans le forum, propose une sélection des ouvrages des intervenants. Voilà, à vous, Elsa et Eric, pour présenter plus en détail ce programme.
Bonjour, bienvenue pour ces 2 jours de colloque. À mon tour de remercier chaleureusement la BPI et évidemment surtout Isabelle Bastion-Duplex et Maxime Goguet pour leur gentillesse et le plaisir qu'on a eu d'organiser ces 2 journées. Très rapidement, je vais donc commencer par introduire. Le point de départ de notre réflexion à partir du concept de genre qui a été à la suite des 2 premiers volets des colloques qui avaient eu lieu l'année dernière sur le féminisme, les questions féministes et les rapports hommes-femmes. Le concept de genre est apparu évidemment tout à fait déterminant pour penser le rapport homme-femme et les relations entre le masculin et le féminin, comme un rapport, évidemment, de pouvoir, un rapport antagonique, dans lequel les termes n'avaient pas d'existence par eux-mêmes, mais prenaient sens dans leurs relations. Ce qui nous a intéressés est donc de repartir de cette définition du concept de genre comme un rapport de pouvoir antagonique qui produit ou qui fait des hommes et des femmes. Évidemment, dans notre perspective théorique, il y a ici une volonté d'étudier et d'interroger la dénaturalisation du rapport de genre, la dénaturalisation des identités sexuées et évidemment aussi des identités sexuelles dans la mesure où les sexualités participent de cette formation des corps comme corps sexuels à la fois sexuées et sexuelles, relevant... oui, voilà. Ainsi, vous verrez, toute notre volonté a également été de ne pas nous en tenir à une appréhension simpliste de ce rapport de genre, appréhension simpliste qui ferait des deux pôles de ce rapport des pôles homogènes, monolithiques, comme s'il n'existait évidemment qu'une acception du masculin et du féminin, ou qu'une acception de ce rapport. Et nous avons été particulièrement attentifs, à la fois en introduisant évidemment la problématique des sexualités, mais aussi celle des autres rapports de pouvoir avec lesquels le rapport de genre a à faire, pour montrer la pluralité des normes de genre, leur jeu pour produire à la fois évidemment des corps sexuels normés et puis des corps troubles, anormaux, contestés et qui contestent précisément les normes, les acceptions normatives du genre et de la sexualité. Donc c'est sur cette problématique très globale évidemment que nous allons aborder selon différents points de vue et différentes disciplines que nous avons engagé notre réflexion et que nous proposons aujourd'hui d'engager avec vous le dialogue.
Je rajoute quelques mots. Elsa ne vous a pas dit, mais en fait, Elsa Dorlin, c'est elle, et Eric Fassin, c'est moi. Et je remercie également Isabelle Bastien-Duplex et Maxime Goguet, et puis j'espère que ce qu'on va voir pendant ces deux journées sera intéressant pour tout le monde. J'ajouterai qu'il paraît que les questions sexuelles sont à la mode. Pour ma part, je voudrais dire que je m'en réjouis. C'est-à-dire que ceux et souvent celles d'entre nous qui s'intéressent aux questions sexuelles ont parfois regretté que d'autres ne s'y intéressent pas. Donc, après avoir déploré un manque d'intérêt, pour ma part, je ne vais pas déplorer un intérêt. Donc, le fait qu'on s'intéresse aux questions sexuelles aujourd'hui, qu'il y ait un écho dans la société pour les sujets sur lesquels nous travaillons et nous réfléchissons, et sur lesquels aussi nous sommes engagés, ça me paraît une bonne chose. Ce serait vrai d'ailleurs aussi, et il y aura des recoupements entre les deux, pour les questions raciales qui ont pris une importance plus grande ces dernières années. Le problème, pourrait-on dire, c'est si on s'y intéresse mal. C'est-à-dire, c'est bien qu'on s'y intéresse, mais c'est moins bien si on s'y intéresse mal. Et en particulier, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une dépolitisation, c'est-à-dire à partir du moment où il y aurait en quelque sorte une récupération académique, universitaire, des thèmes qui sont aussi des thèmes politiques. Alors cette inquiétude, elle n'est pas nouvelle, et effectivement, il peut être vrai dans certains cas que le fait, par exemple, de parler de genre n'apporte pas toujours grand-chose. Parfois, on parle de genre, mais en fait, c'est simplement parce que c'est un mot un peu plus à la mode pour dire qu'il y a des femmes, ce qui n'est pas radicalement nouveau. Parfois, c'est aussi un euphémisme, c'est-à-dire qu'on peut parler de genre simplement pour ne pas évoquer les rapports de pouvoir qui peuvent exister entre les sexes. Néanmoins, si nous avons quand même pensé que ça valait le coup d'utiliser ce mot et plus généralement de réfléchir à ces questions, c'est que nous pensons que en France, aujourd'hui, encore, le genre gêne. Un exemple récent qui m'avait paru remarquable, le fait que la commission de terminologie en matière de langue française éprouve le besoin de récuser l'emploi du mot genre. Il fallait bien quand même que ce mot gênât pour qu'on y fît objection. De manière peut-être plus radicale et plus fondamentale, le fait que le dictionnaire, ou plutôt le lexique des idées controversées sur la famille publiées à l'instigation du Vatican comporte 3 articles sur le mot genre pour essayer chacun à sa manière de déboulonner le mot genre, semblerait vouloir dire que le genre eh bien, ne fait pas l'unanimité et qu'il reste gênant. Et donc, même si je crois qu'il faut rester vigilant sur le risque que des termes qui ont une capacité critique la perdent, je crois que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ce qui précède, les remarques qui précèdent, s'adressent surtout à ceux, et plus souvent à celles, qui trouvent que il y aurait un risque que tout ceci soit trop académique et pas assez politique. Mais il y a une crainte inverse, et c'est ce qui suit, qui va essayer de l'examiner, la crainte que, en fait, ce soit trop politique et pas assez universitaire, pas assez scientifique. Alors, vous vous doutez bien que si je suis ici, ce n'est pas pour me rendre à cet avis. Il me semble que l'un des intérêts précisément de la notion de genre, c'est de remettre en cause l'évidence de la neutralité. Il me semble que ça interroge la neutralité, ce qu'on appelle parfois, dans un jargon sociologique, la neutralité axiologique en particulier. Or, il me semble que sur les questions sexuelles, mais ça n'est pas propre aux questions sexuelles, simplement il est encore plus difficile de l'ignorer dans le cas des questions sexuelles, nul n'est hors jeu, nul n'est hors sexe, nul n'est hors sexualité. Enfin, par nous, bien sûr. Et c'est d'autant plus vrai que pour les organisateurs de ce colloque, cet intérêt n'est pas un intérêt désintéressé, et qu'il y a aussi, à côté d'intérêts scientifiques, d'intérêts publics, il y a un intérêt politique. Nous ne sommes pas indifférents politiquement à ces questions. Donc le fait que ces questions puissent avoir une place dans l'espace scientifique tout en ayant une place dans l'actualité politique, il me semble que c'est à prendre en compte, c'est-à-dire que l'actualité politique nourrit l'actualité universitaire et scientifique, et inversement aussi. Je parle, vous le voyez, plutôt d'actualité que de mode. Précisément parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas hors de la société, hors du temps, hors de l'histoire, mais que nous pouvons essayer de penser ce rapport. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucune spécificité du travail universitaire et du travail scientifique, mais ça veut dire qu'il me semble qu'il y a un intérêt à se laisser interroger par ce qui se passe dans la société, quitte à construire autrement les questions qui nous sont posées, à les reconstruire, à les reposer, peut-être différemment, mais à les prendre en compte. Ce jeu entre le savant et le politique, il explique un parti pris de ces deux journées. Dans ces deux journées, vous l'aurez vu, il y a des intervenants qui interviennent en tant qu'universitaires ou que chercheurs, et d'autres qui interviennent plutôt en tant que représentants d'associations. C'est un mélange des genres qui est délibéré, et que ce genre de sujet, me semble-t-il, appelle à expliciter. Dernière remarque pour terminer, si un des enjeux de toutes ces questions, c'est la manière dont on se représente non seulement l'ordre sexuel, mais aussi la société plus généralement, l'ordre social dans son entier, on voit que ces questions de représentation, elles sont évidemment des questions qui se posent dans l'univers scientifique, mais ce sont aussi des questions qui se posent dans l'univers politique. Mais enfin, ce sont des questions qui se posent dans des univers qui ont pour vocation la représentation. Donc il y aura par exemple la projection de films demain soir qui viendront conclure ces deux journées. Donc ces différentes formes de représentation sont également des enjeux politiques et sociaux. Donc voilà pour terminer. En tout cas, on espère que cette réflexion sur les questions sexuelles, sur des femmes et des hommes, genre et sexualité, sera utile pour essayer de réfléchir à ces questions qui ont à voir avec la dénaturalisation des rapports sociaux. J'abandonne ma place. Toi, tu restes.
Bon, bien, merci, au revoir. Non, je vais... Alors, je vais inviter Fabrice Virgili et Sylvie Chaperon à venir me rejoindre à la table. Donc je passe la parole à Sylvie Chaperon. Sylvie Chaperon qui est historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Toulouse-le-Mirail et qui a publié en 2000 un livre sur les années Beauvoir chez Fayard et sur que nous allons écouter dans un instant.
Merci.
Merci.
Donc, je ferai une présentation sur, non pas les féministes et la sexualité, ce serait beaucoup trop vaste, mais sur les féministes et la sexologie, ou disons, pour faire bref, le discours médical, psychiatrique ou psychanalyste sur la sexualité. Discours qu'elles ont constamment critiqué, selon des modalités différentes. Alors, ce rapport entre féministe et sexologie n'a pas encore été beaucoup étudié en France. Il l'a été beaucoup plus en Angleterre, où il y a tout un débat historiographique sur cette question, et notamment entre des historiennes qui pensent, grosso modo, que la sexologie a été une arme de guerre contre le féminisme, tandis que d'autres nuancent considérablement cette position. Alors, je vais, en contrepoint de l'Angleterre, présenter surtout le cas français, dans lequel... pour des raisons de religion, pour des raisons aussi de développement économique, la France est restée beaucoup trop longtemps plus rurale que l'Angleterre, pour des raisons aussi d'influence du freudisme, la France présente différents décalages par rapport à l'Angleterre. Alors on peut schématiquement, sur le 19e et 20e siècle, distinguer trois grandes périodes, celui de la moralisation sexuelle, celui de la réforme sexuelle et enfin... dernièrement, depuis les années 70, celui de la révolution sexuelle. Alors, première période, donc, la moralisation sexuelle qui va de la fin du 19e jusqu'aux années 20, grosso modo, où les féministes de la première vague, les suffragistes, comme on les appelle aussi, ont été amenés à prendre position sur la sexualité, surtout à propos des débats sur la prostitution, et notamment à partir du grand mouvement abolitionniste. Alors je vous rappelle que la prostitution réglementée est née en France sous le Second Empire, qu'elle a été codifiée sous la Restauration. Il s'agissait d'offrir une prostitution saine, de limiter les maladies vénériennes, et pour cela d'instaurer les maisons closes, les filles publiques suivies, ce qui avait pour résultat de placer hors du droit commun les prostituées qui pouvaient être arrêtées arbitrairement, incarcérées, notamment dans les hôpitaux-prisons pour traitement contre la syphilis, le tout sans aucun contrôle judiciaire. Et avec une brigade policière, la brigade des mœurs, spécialement consacrée à leur surveillance dans les grandes métropoles. Cette prostitution réglementée qui est née en France se diffuse dans les années 60 dans le reste de l'Europe, notamment en Angleterre et en Italie, qui en viennent à l'adopter. Et c'est à ce moment-là aussi que Joséphine Butler, une Anglaise, va prendre la tête de la croisade, hein, ce sont ses propres mots, contre le régime de la prostitution réglementée. Prostitution réglementée qu'elle juge à la fois injuste puisque ça offre toute une catégorie de femmes aux pulsions masculines tout en les mettant hors du droit commun, qui est à la fois immorale puisque le vice en vient à être légiféré au plus haut de l'État et qui est à la fois inefficace, et là beaucoup de médecins vont les rejoindre sur ce point-là, puisqu'elle ne limite pas la contagion des maladies vénériennes. Alors, dans toutes ces brochures abolitionnistes qui se multiplient à la fin du siècle, le paysage sexuel qui se dessine campe un masculin prédateur, brutal, jouisseur et irresponsable face à un féminin pur, innocent, mais victime. L'homme qui laisse libre cours à ses instincts, voilà le grand responsable. Je cite Louis Fiot, qui est un médecin abolitionniste, un des principaux propagateurs de la doctrine dans les milieux médicaux, qui dit « De l'homme vient l'enfant abandonné ou la fausse couche et l'avortement. De l'homme vient le goût du plaisir sexuel et la chute dans la prostitution. De l'homme, pour la mineure, pour la vierge, vient la maladie. » Aussi, les féministes abolitionnistes ne réclament pas du tout la libération sexuelle. Elles réclament la moralisation des hommes, c'est-à-dire elles vont lutter contre la double morale qui à l'époque est très forte, notamment dans le milieu de la bourgeoisie, beaucoup moins dans les milieux populaires, double morale qui exige d'un côté féminin la virginité avant le mariage, la pudeur et la fidélité ensuite, tandis que l'homme peut avoir des relations extra-conjugales, préconjugales et la prostitution contrôlée par l'État et les médecins est là pour ça. Donc les revendications féministes à l'époque sont essentiellement un mariage rénové par l'égalité des droits et par l'amour mutuel, par le libre choix du conjoint, sanctionné par le divorce en cas d'échec, une maternité reconnue comme fonction sociale, notamment la restauration de la recherche de paternité qui n'existe plus en France, et une éducation sexuelle égale, et la fin de la tolérance du vice, donc. Alors, on peut bien sûr voir ces discours comme puritains ou démodés à nos yeux, mais ils sont très bien adaptés aux réalités à la fois sociales et idéologiques du temps, et ils ne sont pas que partagés par les féministes. Les abolitionnistes, qu'ils soient hommes, qu'ils soient militants des droits de l'homme, qu'ils soient médecins, ont les mêmes arguments. Elle rajoute cependant un point qui est spécifique au féminisme, qui est de revisiter en quelque sorte l'évolution sexuelle brossée par Darwin et qui fait véritablement autorité à l'époque, et de le retourner à leur propre avantage, puisqu'elle voit dans l'instinct sexuel agressif masculin, qui est théorisé par Darwin, la preuve de leur infériorité morale, et inversement, la preuve de la supériorité morale de la femme réside dans la capacité à spiritualiser le sexe. Alors je cite par exemple Céline Reynaud, qui est une grande théoricienne de l'époque, et selon laquelle l'abus sexuel engendre l'infériorité de l'homme parce que c'est une dépense qui épuise sa vie nerveuse et laisse un vide dans son cerveau. Tandis que l'amour de la femme est cérébral, il aspire à s'élever vers les choses abstraites, et cela dans une étreinte qui ne comprend que la moitié supérieure du corps. Donc vous voyez, toute une théorisation qui retourne à l'avantage des féministes et des femmes la morale de Darwin, enfin la théorie de Darwin. Alors le slogan de l'époque, « Chastity for men, ballot for women », la chasteté, la tempérance pour les hommes et le droit de vote pour les femmes, est une morale, est une revendication qui existe aussi bien en France qu'en Angleterre. Alors, dans ce contexte, le combat pour la libre contraception, qui est porté à l'époque essentiellement par des milieux très situés à l'extrême gauche du spectre politique, les anarchistes, les libertaires, cette revendication ne séduit pas la très grande majorité des féministes qui y voient au contraire le risque de livrer les femmes encore plus à l'exploitation sexuelle des hommes. Les militantes les plus radicales du féminisme, une Aria Lee en France par exemple, une Christabel Pankhurst en Angleterre, militent davantage pour le célibat militant, le refus donc du couple, de la morale sexuelle des hommes, et non pour la libre contraception. Alors on arrive à un deuxième temps qui est celui de la réforme sexuelle, qui va véritablement s'épanouir à partir des années 20, jusqu'aux années 50, où on se trouve dans un autre contexte social et de genre, surtout pour les années 20 d'ailleurs, où la sexualité et le plaisir, dans le cadre conjugal cependant, deviennent des valeurs positives, non pas seulement pour quelques milieux libertaires, mais pour l'ensemble de la société. Et cette mutation est à mettre en parallèle avec les progrès de l'individuation qui font que l'amour, l'attrait mutuel, voire l'attrait des corps, devient le critère numéro un du mariage et non plus les alliances parentales. La sexologie va naître précisément à cette période. Le mot est traduit en France au début des années 1910. Et la sexologie s'inscrit pendant un temps en critique des discours psychiatriques de la sexualité de l'époque, discours psychiatriques qui avaient érigé toute une théorie des perversions sexuelles et tout un catalogue des perversions sexuelles, au premier chef desquels l'homosexualité. Alors, elle est représentée pendant cette période essentiellement par trois grands noms, l'anglais Havelock Ellis, le suisse Auguste Forel et l'allemand Magnus Hirschfeld, qui est aussi l'un des fondateurs d'un des premiers mouvements homosexuels allemands. Ils vont fonder la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle, dans laquelle les féministes vont rentrer en rang assez serré, et qui sera active essentiellement dans les années 20 et 30. L'arrivée au pouvoir des nazis mettra un terme à ce combat animé beaucoup par Magnus Hirschfeld. Alors, les revendications de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle sont très larges et très progressistes, puisqu'elle réclame l'égalité politique, économique et sexuelle entre hommes et femmes, la sécularisation du mariage et du divorce, la procréation consciente, donc le birth control, comme on l'appelait à l'époque, l'eugénisme, la protection des mères célibataires et de l'enfant illégitime, la prévention de la prostitution et l'abolition des régimes réglementés, l'éducation sexuelle et la dépénalisation de l'homosexualité. Alors en France, la sexologie va avoir du mal à s'implanter, à s'institutionnaliser, puisque la France est sous le joug de la loi 1920 qui interdit donc et la contraception et l'information sur la contraception. Et du coup, forcément, un mouvement qui prône le birth control a beaucoup de mal à s'institutionnaliser. Il faudra attendre les années 30 pour qu'il y ait les premières associations sexologiques en France, portées d'ailleurs par des médecins assez respectables qui prennent un peu leur distance par rapport au militantisme de la Ligue mondiale. Et les féministes, notamment les suffragistes, sont assez actives dans ce mouvement. La contraception et la revendication pour la contraception va, dans ce cadre de la réforme sexuelle, subir une mutation. Elle n'est plus portée par des mouvements anarchistes d'extrême gauche, ou plus seulement, et elle est moins perçue comme une arme pour l'amélioration de la classe ouvrière que comme un outil d'émancipation pour le couple, pour la famille et pour les femmes. Donc on parle moins de lutte de classe que de bonheur conjugal, de bonheur familial. C'est Margaret Sanger qui est à l'origine de cette mutation politique de la revendication du birth control. Ça va se diffuser sur le continent grâce à Mary Stopes, l'anglaise Mary Stopes, qui va instaurer le birth control en Angleterre. Et en France, ben là aussi, ça peine à s'instaurer, mais on peut citer tout de même Bertie Albrecht, qui est une Française qui a vécu en Angleterre et qui importe en France ce mouvement, ainsi que Jean d'Alsace, qui est un communiste. Alors en France, la sexologie va prendre une connotation assez conservatrice parce qu'elle est associée beaucoup au freudisme et à une vision particulière du freudisme, portée notamment par Angelo Esnar. Alors la sexologie de l'époque prône le plaisir féminin comme le plaisir masculin, essentiellement pour l'harmonie et le bonheur du couple. Je peux citer à cet égard Auguste Forel, mais elle continue de s'appuyer sur une vision très différente de la sexualité masculine et de la sexualité féminine. Donc si je cite ce fameux Auguste Forel, il dit « L'instinct de la procréation est bien plus fort chez la femme que chez l'homme, et il se combine au besoin de se donner passivement, de jouer le rôle de celle qui se dévoue, souffre et supporte, qui est vaincu, maîtrisé et subjugué. » Et Sigmund Freud va inscrire dans la chair cette loi de la soumission, puisque le clitoris, organe phallique pour lui, doit laisser la place après la petite enfance au vagin, organe passif et révélé par l'homme chez la femme adulte. Et l'homosexualité, pour le freudisme, constitue aussi une fixation à un stade infantile. Donc Angelo Esnar et son livre va beaucoup contribuer à divulguer cette théorie de la hiérarchie des deux orgasmes qui doivent se succéder dans la maturation normale de l'individu féminin. Et également Marie Bonaparte, qui était la grande propagatrice du freudisme en France, qui publie en 1933 un article sur les deux frigidités de la femme, dans lequel elle nomme clitoridisme cette sorte d'infirmité, cette inadaptation à une fonction vitale qui est l'anesthésie vaginale. Et dès 1924, elle avait déjà publié sous pseudonyme plusieurs textes où elle proposait une opération chirurgicale pour rapprocher le clitoris de l'ouverture vaginale afin de mettre un terme à cette inadaptation à une fonction génitale. Alors, les féministes vont discuter un peu de cette sexologie, mais rarement en allant au cœur de la sexualité même et rarement en s'en prenant à la gestuelle du coït préconisée par les sexologues. On peut citer toujours en Angleterre Mary Stopes, qui fait toute une théorie sur l'instinct sexuel féminin et le respect de cet instinct sexuel par les hommes. Ou on peut citer en France Madeleine Vernet ou Madeleine Pelletier, qui se situe aussi dans cette frange anarchiste dont j'avais parlé, proche des néo-malthusiens. Mais elle ne se situe pas vraiment dans une logique de réforme sexuelle, mais pour Madeleine Pelletier, toujours dans la théorie du célibat militant. Pour elle, il ne saurait y avoir aucune compromission dans l'état actuel des choses avec l'hétérosexualité. Pour autant, elle reconnaît tout à fait que les femmes ont des désirs et des instincts sexuels. Je la cite, hein, « La femme n'est pas seulement, ne fait pas seulement qu'être désirée, elle désire, l'instinct sexuel parle aussi en elle, mais la société ne lui donne aucun droit de se faire valoir. » Il faut donc entendre en France le deuxième sexe de Simone de Beauvoir pour que féminisme rime avec réforme sexuelle et même avec libération sexuelle. Dans cet ouvrage, elle discute pied à pied des théories des sexologues qu'elle maîtrise parfaitement et des psychanalystes. Elle conteste l'envie du pénis de Freud, elle conteste le masochisme féminin et toutes les interprétations de l'homosexualité féminine qu'elle appréhende comme un libre choix en situation. Et puis par ailleurs, vous savez qu'elle revendique pour la contraception et le libre avortement dès 1949, à une époque où personne d'autre ne le fait, du moins d'une voix aussi forte. Alors, on arrive ensuite à la troisième période, celle de la révolution sexuelle, où là encore, on est dans un autre contexte très différent. Les féministes du mouvement de libération des femmes évoluent dans un contexte où le discours sexologique est très fortement diffusé dans la société. L'exercice régulier de la sexualité, si ce n'est conjugal, du moins hétérosexuel, est devenu un impératif de bonne santé et d'épanouissement mental. La virginité, l'innocence, la pudeur des femmes ne sont plus aussi prisées. Mais tandis qu'en Angleterre, on a un assez rapide accompagnement législatif par rapport à ces changements de société, en France, on a toujours un blocage persistant. Pour vous donner juste un exemple du décalage, en 1967, au moment où est votée la loi Neuwirth, qui en France va légaliser la contraception, la même année, donc, l'éducation sexuelle est instaurée en Grande-Bretagne et l'avortement jusqu'à 24 semaines est autorisé s'il s'agit d'un avortement thérapeutique, mais avec une très large tolérance de cette indication thérapeutique qui fait qu'il va se diffuser assez largement. Alors, je passe sur les combats des féministes pour l'avortement, contre le viol également, pour m'attarder davantage sur leur discours sur la sexologie, puisque toute une réflexion se développe sur la domination masculine à l'œuvre au cœur des rapports sexuels. Sexologues et psychanalystes sont jetés aux orties. Et dans le premier corpus théorique du MLF, publié dans la revue Partisan, cette critique de la sexologie tient une place de premier ordre. On a traduit un article d'Anne Cutt, féministe radicale de New York, dont le titre est « Le mythe de l'orgasme vaginal », ou encore un article de Christiane Rochefort qui, elle, s'attaque au mythe de la frigidité féminine. Et toute la conception donc freudienne et sexologique dominante en France jusqu'aux années 50 est très fortement critiquée. Alors, il faut rappeler qu'elles ne sont pas les premières, même si le numéro de Partisan s'intitule « Libération des femmes année zéro ». Il y avait déjà eu la critique de Simone de Beauvoir, qu'on a déjà mentionnée très rapidement. Elle s'était poursuivie par la critique de Betty Friedan aux États-Unis sur la psychanalyse et la sexologie, ou par une personne moins connue en France, mais qui a aussi beaucoup contribué à cette critique, qui est Geneviève Texier. Il faut citer aussi le rapport Kinsey, sur la sexualité féminine de 1953, qui est traduit en 54 en français, et dans lequel il avait fortement remis en question cette notion de dualité des orgasmes, affirmant même une insensibilité presque complète de l'intérieur du vagin. Ce faisant, d'ailleurs, il renouait d'ailleurs avec un discours médical dominant un siècle plus tôt, où le clitoris, plutôt que le vagin, était vu comme l'organe de la jouissance féminine. Alors, les féministes des années 70 donnent une toute autre interprétation à ces constats, et suivant en cela la perspective corrosive de Tigress Atkinson, new-yorkaise également, elle voit dans la sexualité féminine un champ de bataille ravagé par la domination masculine. Donc le clitoris, organe féminin de la jouissance, ce qui ne fait tout de même pas unanimité dans le mouvement des femmes. Je pourrais citer par exemple Simone de Beauvoir, qui est très irritée par tout ce qu'elle appelle la mystique du clitoris. Le clitoris donc a été nié et les femmes ont été définies sexuellement en fonction de ce qui fait jouir les hommes, résume donc Anne Cutt. Celles qui n'y parvenaient pas, la grande majorité, ont été définies frigides et traitées comme telles. Les sexologues, qui avaient pu paraître dans l'entre-deux-guerres progressistes et libéraux, sont clairement situés du côté des oppresseurs. Je peux citer ici Christiane Rochefort qui dit avec malice « Voyez-vous les sexologues déclarer « Il n'y a pas de femmes même partiellement frigides, il n'y a que des femmes sexuellement maltraitées. On pourrait demander par qui ?» Question de Christiane Rochefort. Ou encore Xavier Gauthier qui invite dans son ouvrage « Dire nos sexualités » qu'il s'agit de partir en premier lieu contre la sexologie, et elle accumule tous les griefs contre ces pseudo-experts qui ont construit une sexualité blanche, bourgeoise, adulte, conjugale, hétérosexuelle, génitale, reproductive et misogyne. Donc en conséquence, les féministes revisitent la libération sexuelle, disent que votre révolution sexuelle, disent aux gauchistes, pardon, votre révolution sexuelle n'est pas la nôtre. Et elles invitent à réinventer la sexualité selon leur corps et leurs désirs. Et ce faisant, il y a deux voies qui sont surtout empruntées par les féministes de l'époque. Celle qui inverse la vision freudienne de la maturation sexuelle, pour voir dans la petite fille non pas l'enfant polymorphe qu'il faut absolument canaliser sous peine de voir la civilisation mise en danger, mais au contraire celle dont la sexualité non génitale, non orientée sexuellement, peut montrer la voie à suivre. Ou enfin, deuxième voie, le lesbianisme, qui, selon Monique Wittig, peut offrir une solution politique. Je rappelle sa célèbre phrase, hein, « Une lesbienne n'est pas une femme ». Le lesbianisme offre la solution en ce qu'il permet d'échapper à la domination masculine et de réinventer une sexualité authentiquement féminine. Voilà, donc un parcours très rapide, j'espère avoir respecté les normes. Parcours très rapide qui montre donc que les féministes ont de tout temps contesté l'ordre sexuel mis en avant par les médecins, par les sexologues. Tout d'abord en réclamant la moralisation donc des hommes. Ensuite en réclamant essentiellement une réforme sexuelle basée surtout sur la contraception. Et enfin, en réinventant une révolution sexuelle selon des critères féminins.
Merci infiniment. Donc je passe la parole à Fabrice Virgili, qui est historien chargé de recherche au CNRS. Et qui est l'auteur de La France virile, des femmes tondues à la libération, qui était sorti en 2000 chez Payot.
Merci. Bonjour. Je pourrais dire d'une certaine manière qu'après Eros, nous allons passer à Thanatos, puisque le propos qui sera le mien aujourd'hui est de réfléchir sur l'effet des guerres mondiales sur les identités de genre, les identités féminines et masculines. Tout d'abord, pour commencer, pourquoi finalement aborder les guerres à travers ces questions de l'identité? Je crois qu'il y a un débat, disons, récurrent, ancien, classique, qui agite finalement beaucoup de disciplines, de savoir si les guerres sont des facteurs de progrès, d'accélération ou pas de l'histoire, si on pense qu'il y a un sens, d'émancipation ou pas. Et ce débat-là a bien sûr préoccupé l'histoire des femmes, entre autres à partir d'une question devenue assez classique, qui est la question du travail des femmes, et savoir si au cours de la Grande Guerre, finalement la Grande Guerre a été un facteur qui a amené les femmes à travailler plus ou pas. C'est pas le propos aujourd'hui. Je voudrais juste prendre un exemple pour montrer pourquoi est-ce qu'il peut être intéressant aussi de décaler le regard, de se poser autrement ces questions-là. En ce qui concerne le travail des femmes, on sait que de nombreuses femmes ont été recrutées par l'armée à partir de 1916, à partir du ministère du, ont été recrutées par le ministère de la Défense. Dès 19, massivement, ces femmes voient leur contrat non reconduit. Néanmoins, au même moment, est créée une exception qui concerne les dames dactylographes et qui fait que désormais, au ministère de la Défense, il y a des employées féminines. Vous voyez bien, autour de cet exemple, on peut finalement apporter les deux réponses. On peut dire oui, la guerre a favorisé parce que du point de vue de la législation, il y a un précédent qui est créé, ou on peut dire bon, il y a eu une parenthèse qui s'est fermée après la guerre. Ce débat continuera, je pense, et l'idée, c'est de se poser autrement la question, d'apporter une réponse complémentaire, qui est de savoir en quoi est-ce que la guerre a-t-elle pu jouer sur les identités, c'est-à-dire la manière dont les hommes se sentent hommes, les femmes se sentent femmes, et comment chacun voit l'autre sexe. Et c'est à cette question que j'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse. Travailler sur les identités, c'est aussi essayer une histoire plus intime, d'essayer de prendre en compte ce qui se passe à la marge, l'exception, pas uniquement les phénomènes majoritaires, voir quels sont les précédents créés et aussi faire cette histoire-là, en sachant à chaque fois que cela ne concerne parfois que quelques dizaines, centaines, milliers d'individus. Bref, peu importe que ça concerne des événements qui peuvent être très minoritaires, mais qui ont un sens néanmoins, et un sens que nous devons aussi essayer de comprendre et d'analyser. Le premier exemple, à partir de la première image, je voudrais donner de cette démarche. Merci. Voilà deux photographies qui datent du Second Conflit mondial. À gauche, vous voyez trois hommes qui se sont photographiés, enfin un de leurs camarades les photographie, fin mai, début juin 1940, c'est-à-dire au cours de la débâcle. Contrairement à l'apparence du casque, ce ne sont pas des soldats français, mais trois soldats allemands. Donc trois soldats victorieux sur les routes du nord de la France, qui ont récupéré des casques français, qui se sont déshabillés, ne conservant que leurs bottes et l'étui de revolver comme cache-sexe pour se photographier. Voilà une image très éloignée du soldat héroïque ou du soldat paradant ou du défilé ou du soldat combattant. Bref, une image intime, puisque cette photographie, jusqu'à ce que je puisse la trouver dans un album d'une famille d'un de ces soldats, n'était pas destinée à être publiée, mais qui montre que ce regard décalé peut aussi nous apporter des informations, peut aussi nous montrer que ces soldats combattants, là, victorieux, peuvent aussi à un moment s'arrêter et dans une sorte de jeu entre eux, se photographier dans cette posture. Et puis à droite, deux femmes qui débarquent le 16 août 1944 sur les plages de Provence, c'est le débarquement de Provence, et qui, elles, sont vêtues du treillis et du casque et qui participent à ce débarquement le 16 août. Sans être spécialiste d'histoire militaire, c'est le lendemain du jour J du débarquement en Provence. Donc c'est un moment où les combats sont encore à proximité. On est dans une phase de combat de débarquement. C'est pas 15 ou 20 ou un mois après lorsque seulement la logistique débarque. Et donc là aussi, une image très différente de celle qu'on peut avoir l'habitude de voir concernant la guerre, certes minoritaire, j'y reviendrai, mais qui, selon moi, a du sens. La première chose à partir de laquelle je voudrais partir, justement, c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit là, c'est quelles sont finalement les assignations de genre en temps de guerre. Quand on lit les deux ordres de mobilisation, que ce soit celui du 1er août 1914 ou du 1er septembre 1939, ces ordres de mobilisation ne concernent que les hommes. Rien, absolument rien, ne fait allusion dans ces ordres aux femmes. Il est clair à ce moment-là que le prix du sang est celui de la citoyenneté. En ce qui concerne la France, c'est quelque chose de très fort depuis, d'une certaine manière, la Révolution française, où les femmes, en étant exclues du politique, sont exclues du combat, et les hommes remplissent là leur devoir masculin en payant ce prix du sang du combat. C'est intéressant d'observer qu'au cours des deux guerres mondiales, la question de l'identité et de l'appartenance de sexe prime sur toutes les autres considérations. C'est-à-dire qu'en 1939, les considérations économiques importent peu pour mobiliser, c'est-à-dire qu'on est prêt à désorganiser, et il y aurait une désorganisation de l'économie en 14 comme en 39. Les considérations familiales également. En 14 était fait une exception au début pour les pères de familles nombreuses. En 1915, vu le coût humain de la guerre, on va rechercher des pères veufs de familles nombreuses pour les envoyer au front. Donc les considérations familiales ne comptent pas. Il en est de même des considérations médicales, où en 1915, on va aussi rechercher les personnes qui avaient pu être réformées auparavant, ou des considérations religieuses, puisque depuis 1889, les prêtres étaient mobilisables, et même depuis 1906, versés dans les unités combattantes. Donc il ne reste finalement que deux considérations qui font exception, c'est celle de la génération, puisqu'on n'ira pas mobiliser des enfants en dessous de 18 ans, et puis celle du sexe, puisque les femmes en aucun cas ne seront mobilisées. Voilà pour l'assignation, c'est-à-dire quelque chose qui semble clair, manifeste, intégré, qui vient à l'esprit presque naturellement, qui n'a pas besoin d'explication. Les hommes sont au front, les femmes à l'arrière. On s'aperçoit que dans la réalité, ce n'est pas aussi strict et clair, et qu'il y a un nombre de plus important de femmes qui vont se retrouver à proximité du front ou au front. D'abord parce qu'on observe une évolution du point de vue réglementaire. En effet, dès la Première Guerre mondiale, certes dans des secteurs considérés comme traditionnellement du ressort du féminin, et je pense bien sûr à l'assistance et aux infirmières, il y a un nombre de femmes de plus en plus important qui vont s'approcher de la zone des armées et même pénétrer la zone des armées et se trouver à proximité immédiate du front. D'un point de vue aussi d'initiative personnelle, car contrairement à ce que l'on peut penser, on s'aperçoit là aussi que beaucoup de femmes pouvaient être présentes. Pensons simplement pour la Première Guerre aux femmes habitantes des zones envahies ou évacuées auparavant et qui, elles, sont restées dans les lieux. Aux infirmières que j'évoquais, aux prostituées que l'on va retrouver aussi, nombreuses à proximité de cette zone des armées, avant même la mise en place dès 1917 des bordels militaires de campagne qui institutionnalise du point de vue des autorités militaires cette prostitution réglementée par l'armée. Mais aussi des compagnes, des fiancées qui vont essayer de rejoindre leur compagnon qui est au front et profiter d'une permission pour le retrouver en étant au plus près du front. Enfin, d'un certain nombre d'ouvrières, de travailleuses dont l'armée a besoin, il y a, on l'ignore parfois, mais 300 conductrices. Certes, vous me direz 300, c'est pas grand-chose, c'est vrai, mais 300 conductrices qui, au cours de la Grande Guerre, vont conduire des camions, des véhicules pour l'armée et être présentes, là aussi, dans la zone des armées. Et puis, un autre changement majeur, qui, là, est évidemment beaucoup plus observable au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a une guerre qui, si les deux guerres mondiales sont ce qu'on appelle habituellement des guerres totales, le déroulement même des événements au cours de la Seconde Guerre mondiale mêle beaucoup plus ce qui est de l'ordre du civil, du militaire, du féminin, du masculin, et du front et de l'arrière. Et dans ce cas-là, bien souvent, des hommes et des femmes vont soit vivre ensemble l'événement guerrier qui arrive, soit le vivre séparément, mais vivre des événements de même nature. La deuxième photographie, s'il vous plaît. Voilà une photographie qui date, elle aussi, de 1940, mais un peu plus tardivement. On est en septembre 1940 à Londres, c'est une scène du Blitz, et qui a été publié dans une revue, dans un journal, enfin non, un ouvrage en 1944, en Angleterre mais en langue française, qui s'appelle Au front. Et le front en question, ce n'est pas la tranchée, ce n'est pas les combats directement, mais c'est la population sous les bombes de l'Angleterre. Et on voit cette photographie d'un homme et une femme à travers les ruines d'une ville anglaise, chacun portant ce qui leur reste, probablement dans les bras, avec ce regard d'une certaine complicité entre eux dans ces ruines. Donc là, on n'a pas deux images différentes de l'expérience, du vécu de la guerre des hommes et des femmes, mais on a une image commune. Ça ne veut évidemment pas dire que toutes les images sont communes et toute l'expérience est la même. Mais enfin, là, il y a quelque chose qui est quand même fondamentalement nouveau, différent, et qui fait que l'expérience de guerre ne sépare plus de la même manière des hommes et des femmes au cours du second conflit mondial. Dans d'autres cas, cette expérience de la guerre peut être vécue séparément. Je pense par exemple aux prisonniers de guerre français ou aux travailleurs requis d'ailleurs du service du STO ou volontaires qui étaient en Allemagne, qui ont vécu le bombardement des villes allemandes pendant que leurs femmes, leurs compagnes vivaient en France le bombardement des villes françaises. Donc là aussi une expérience identique vécue par des hommes et par des femmes. Voilà pour ce qu'il en est du déroulement de la guerre. Ce que je voudrais maintenant aborder, c'est en quoi ces guerres peuvent constituer un laboratoire des identités. En quoi elles nous permettent, je le pense, de peut-être mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'intime, au niveau du privé, que le temps de paix. Alors, très probablement, les chercheurs ou chercheuses qui travaillent sur le temps de paix pourront contredire ce que je dis, mais finalement, peu importe. On a au moment des guerres, si on accepte d'envisager les guerres comme certes des moments de contrainte extraordinaire, mais aussi des moments où il y a des possibles, des extraordinaires, hein, qui peuvent avoir lieu parce que justement on est en temps de guerre, parce qu'il y a ces contraintes, mais parce qu'il y a aussi une perte des repères, une perte d'un certain nombre de cadres, de contrôles sociaux. Pensons justement à des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui vont partir à l'occasion d'un engagement en Allemagne ou alors parce qu'ils sont forcés, qui vont du coup se retrouver parfois très jeunes en dehors du contrôle habituel qu'ils pouvaient jusque-là avoir de leur famille, de leur village, de leur voisinage. Et donc ce genre de situation, c'est un moment de contrainte extrême, on en convient, mais c'est aussi un moment où il peut se passer d'autres choses, d'autres possibles, et je crois qu'il est aussi important d'étudier cette dimension-là quand on travaille sur un conflit. Et puis, parce qu'il y a séparation, parce qu'il y a cette situation assez épouvantable de la guerre et de la séparation, on a, et là je parle des archives, des choses que l'on n'a pas en temps de paix. Il est rare qu'un couple s'écrive quotidiennement pendant 4-5 ans, quand les gens vivent ensemble. C'est très fréquent quand l'un des deux est au front, l'autre à l'arrière, l'un des deux est prisonnier, l'autre à l'arrière. Et donc on a la possibilité de voir cette écriture qui là aussi n'était pas destinée à être publiée un jour ou à être connue, mais qui est une écriture intime du maintien du lien affectif, amoureux, vous l'appellerez comme vous voulez, entre deux individus qui sont séparés du fait des événements et qui, évidemment, constituent une source extraordinaire. Autre source, pour insister sur cette dimension laboratoire des identités que constituent les guerres, eh bien la médecine militaire, la psychiatrie militaire qui va, pour les engagements, examiner, voire accepter ou repousser des milliers d'hommes d'un point de vue psychologique, et là aussi on a une source extraordinaire, c'est par exemple 70 000 soldats pour le corps expéditionnaire américain de 17 à 18 qui sont traités pour troubles mentaux. Et bien là aussi on a une source, une archive assez extraordinaire qui nous permet peut-être de comprendre des choses qu'il serait difficile de comprendre autrement. Je voudrais prendre deux exemples, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, sur justement ces situations marginales, un peu extraordinaire. C'est-à-dire des situations où des hommes, dont on a vu que l'assignation clairement établie par la société dans laquelle ils vivent est de leur dire « votre rôle est de combattre », vont refuser de combattre. Alors que les choses soient claires, ils ne vont pas refuser au nom du genre. Ils ne vont pas dire « moi je refuse parce que je considère que mon identité masculine n'est pas d'être combattant ». Ça, on ne le lit évidemment jamais à ce moment-là. Mais ils vont refuser, et je crois qu'il est important de s'interroger sur les formes de ce refus et sur le sens qu'elles peuvent prendre. Alors, on pourrait s'intéresser à différentes formes de refus. Hein. Moi, je vais aborder juste la question de la peur et de la blessure psychique, mais je crois qu'il y en a d'autres. L'automutilation, le suicide, la désertion sont aussi d'autres formes de ce refus. Et puis ensuite, j'essaierai de voir, disons, l'exemple inverse, opposé, qui est à l'inverse quand des femmes, elles, veulent combattre, veulent s'engager, veulent donc, là aussi, rompre avec ce qui est leur assignation, d'être à l'arrière et participer aux opérations. Qu'en est-il quand les hommes refusent le combat ? Alors, pour ceux qui suivent, je dirais, l'actualité historiographique de la Grande Guerre, ils savent peut-être que c'est un débat qui dure maintenant depuis longtemps entre un certain nombre d'historiens de la Grande Guerre, pour savoir si finalement ces millions d'hommes mobilisés pendant 4-5 ans étaient là par consentement ou par contrainte. Je crois qu'on peut aussi là essayer d'apporter une réponse différente. en se disant bien évidemment que la contrainte, c'est pas forcément avoir une baïonnette dans le dos, et le consentement, c'est pas forcément crier « Vive la France !» et sortir joyeusement de la tranchée chaque matin. La contrainte, c'est aussi, est-ce que c'est de la contrainte ou du consentement ? Finalement, la question reste posée. C'est aussi une contrainte sociale et une contrainte d'identité, et entre autres d'identité masculine. Mais il est difficile de savoir si on est là dans la contrainte ou l'adhésion. Parce que quand tous ces camarades de classe, de village, de promotion, de ce que vous voulez, vont faire la guerre, parce que ce sont des hommes et parce que c'est leur devoir, est-ce qu'il est simple de refuser de faire comme les autres ? Là aussi, on a un élément de pression, finalement, sociale, identitaire, très fort, hein, qui est à prendre en compte dans ce que peut être les raisons qui vont amener ces hommes à faire, à rester au front au cours de toute la guerre. La peur vous émascule. L'expression n'est pas de moi, on la lit souvent sous la plume d'un certain nombre d'auteurs sur, justement, la Première Guerre mondiale ou le combat en lui-même. Nombreux écrivent qu'elle est justement un vrai, véritable test de virilité. Là aussi, les termes ne sont pas de moi. La peur au combat est quelque chose, là aussi, qui finalement n'est pas si simple à analyser, parce que d'une part, elle est considérée comme normale, elle est acceptée dans certains cas, la peur du bleu, la première attaque, on a une certaine indulgence, le soldat qui va vomir parce qu'il a vraiment la trouille, là aussi, une indulgence est réelle. Par contre, quand c'est le relâchement des sphincters, le jugement est beaucoup plus terrible, moqueur vis-à-vis de ce combattant. Je voudrais citer une thèse de médecine écrite en 1919 par un psychiatre des armées, le docteur Brousseau. Et déjà, le fait qu'une thèse intitulée « La peur aux armées » ait été publiée en 1919, je pense, est un indice important qui nous montre qu'on accepte l'idée de la peur et surtout, on la voit différemment et pas simplement comme de la lâcheté. Le docteur Brousseau, donc expert psychiatre aux armées et expert, va avoir à faire l'expertise d'un certain nombre de soldats accusés de désertion, de lâcheté au cours de la Grande Guerre. Et il cite entre autres un cas, le soldat B, né en 85, victime de crises nerveuses lors de conflits successifs avec son père au cours de son enfance, réformé en 1903 pour hystérie. Mais là aussi, je vous parlais des considérations médicales tout à l'heure, en 1915, il est ce qu'on appelle récupéré, et donc on l'envoie au front. Pendant un an ou deux, manifestement, il n'y a pas de problème majeur, en tout cas rien qui apparaisse dans son dossier. Et puis en 1917, il apprend la mort de son frère tué au combat. Et il est lui-même, il est sur le front de la Piave, dans le nord de l'Italie, il y a un corps expéditionnaire français qui se trouve là, victime de plusieurs bombardements d'artillerie. Fin décembre 1917, il souffre de diarrhée, suit de plus en plus les moqueries de ses camarades. Nouvelle crise, toujours en décembre, il s'enfuit en courant vers l'avant, se débarrasse de ses armes, ses vêtements et s'endort dans un coin. Il est absent 11 heures, abandon de poste devant l'ennemi, et donc il est arrêté et poursuivi, et donc expertisé pour cette raison par le docteur Brousseau. Voilà ce que dit lui ce médecin, psychiatre aux armées. Ce cas est loin d'être unique. Ils étaient la victime du milieu militaire qui exalte le courage, mais peut aussi accentuer les défaillances. Des soldats tels que B sont la risée de l'escouade. Le mépris est sur eux et mine leur fragile raison d'une conduite plus honorable. En un mot, le soldat B, en ce qui le concerne, ne sera pas condamné. On considère qu'il y a une pathologie et donc il sera... il ne sera pas condamné ni renvoyé au front d'ailleurs, mais on voit bien qu'il y a une ambiguïté à ce moment-là à propos de la peur et du sens qu'elle peut avoir. Et on le retrouve à propos de la blessure psychique, connue aujourd'hui comme l'expression anglaise post-traumatic stress disorder, donc tout simplement trouble du stress post-traumatique, qui est très largement utilisé, étudié et soigné de nos jours. À l'époque, l'expression était différente. Les Anglais parlaient de shell shock, les Français d'obusite. Et encore auparavant, au 19e, au 18e, on parlait du vent du boulet, hein, qui finalement désigne à peu près cette chose-là. Et là, c'est intéressant aussi d'observer l'évolution. La psychiatrie aux armées commence avec la guerre de sécession. En 1905, sur le front russo-japonais, il y a déjà là aussi des psychiatres qui se rendent compte que le meilleur moyen de renvoyer un soldat au front, puisque c'est quand même la finalité de la psychiatrie aux armées, comme de la médecine aux armées, hein, c'est de renvoyer les soldats combattre. Mais néanmoins, il y a une vraie ambiguïté, parce qu'en les renvoyant combattre, c'est peut-être aussi, et les choses ne sont pas forcément si claires, permettre qu'ils guérissent plus vite. Plus on intervient rapidement et plus près du front, plus il semble que les soldats peuvent dépasser ce shell shock, ce stress post-traumatique. Au cours de la Grande Guerre, il y a une véritable incompréhension, pourrait-on dire, entre d'un côté les militaires et de l'autre côté les psychiatres, autour de la question de la simulation. Car quand les psychiatres parlent de simulation, ils entendent simulation au sens psychique, c'est-à-dire que la personne ne fait pas semblant, hein, même si il n'y a pas de blessure physiologique, alors que pour les militaires, entendre simulation, c'est quelqu'un qui fait semblant. Et donc c'est un lâche qui ne veut pas combattre. Et il y a ce débat qui agite la médecine militaire et l'armée tout au cours de la Grande Guerre. Ce qui est intéressant, c'est de voir progressivement l'idée du stress post-traumatique, de la blessure psychique en temps de guerre, s'impose de plus en plus, particulièrement au cours de la Seconde Guerre mondiale, où elle est reconnue par l'armée américaine. Il y a un épisode que certains d'entre vous connaissent peut-être, où en 1943, en Sicile, le général Patton va gifler deux jeunes soldats qui ont un moment craqué au moment d'une offensive. Eh bien, il y a une campagne de presse qui se développe aux États-Unis et il est obligé de faire ses excuses aux familles des soldats. C'est-à-dire que là aussi, on intègre l'idée qu'on puisse craquer au combat et pas moins en rester un homme, ou en tout cas répondre à ce qu'est une identité masculine définie par les sociétés dans lesquelles vivent ces personnes. Cette blessure traumatique est de plus en plus reconnue et on peut dire, je crois, que à la fin des deux guerres mondiales, même si ce n'est pas aussi clair, mais en tout cas progressivement sur l'ensemble du siècle, la masculinité n'exigeait plus de traverser indemne l'épreuve du combat. Je voudrais maintenant en venir du côté féminin à propos de ces femmes combattantes. Si on regarde la situation en 1914 et auparavant, on s'aperçoit de quoi ? Qu'il y a des figures mythiques de femmes combattantes. On pense tous à Jeanne d'Arc, évidemment. Il y a des héroïnes moins connues aujourd'hui, mais qui l'étaient à l'époque au cours de la guerre de 70. Qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que pour être une femme combattante, il faut être soit vierge, soit veuve. Donc, il y a une manière pour une femme d'entrer au combat qui est comme on entre dans les ordres, c'est-à-dire on abdique toute sexualité. Une combattante ne peut pas avoir de sexualité. Voilà pour, disons, le mythe de la femme combattante, cette image de femme combattante jusqu'au cours de la Grande Guerre. Et puis là aussi, on s'aperçoit que petit à petit, des femmes au combat, des femmes près du front, on va en voir de plus en plus. L'idée de voir des femmes en uniforme dans la zone des armées ne va plus devenir si extraordinaire, si absurde, à travers celles que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Alors, les infirmières ont un uniforme d'infirmière, mais les conductrices ont un uniforme. Et puis, il y a les corps expéditionnaires d'auxiliaires féminines britanniques et anglaises, plusieurs dizaines de milliers de femmes que l'on va voir, qu'on va s'habituer à voir. Et puis un changement au cours de l'entre-deux-guerres, avec des images comme la prochaine, s'il vous plaît, qui, elle, date de la guerre civile espagnole. Voilà la couverture de Voilà, un hebdomadaire donc, qui date de l'été 1936, 1er août pour être précis. On voit ici, parmi la foule, je crois qu'on est... Attendez, j'ai un doute si c'est Barcelone ou Madrid, excusez-moi. Mais on voit ici une foule et une femme au premier plan, donc un fusil à l'épaule, mais en même temps son sac à main aussi à la main. Et on voit bien ici une sorte de... Je vais prendre une expression peut-être pas la meilleure, mais une sorte de clash identitaire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté toute l'apparence d'une image très sage, très raisonnable, d'une certaine féminité, et puis ce fusil qui vient ici, qu'elle tient en bandoulière en même temps que ce sac. Eh bien, des images comme celle-là, donc de femmes qui combattent pendant la guerre d'Espagne, il y a aussi les fameuses, à l'époque, fameuses lota finlandaises, c'est-à-dire des femmes qui combattaient dans l'armée finlandaise lors de la guerre russo-finlandaise de l'hiver 39-40, deviennent de plus en plus familières. Et puis, qu'en est-il en France? Je vous disais qu'au cours de la Grande Guerre, il n'y avait pas eu de femmes à part ces 300 conductrices dans l'armée, et qu'aucune exception ne pouvait justifier la présence de femmes dans l'armée. Eh bien, à partir de 40, il commence à y avoir des exceptions. On envisage la mobilisation des femmes. Et c'est même prévu en 40. Mais vous allez voir à quelle date, fin mai et mi-juin 1940. C'est-à-dire qu'au moment où, en gros, il n'y a plus rien à faire. Et évidemment, la débâcle, la défaite, va mettre un terme à ces expériences de femmes pilotes qui devaient, entre autres, ramener le maximum d'appareils de l'aviation française vers l'arrière pour éviter leur destruction. Juin 40, une date qui est, là aussi, je pense, fondamentale du point de vue de l'identité masculine et féminine. Car il ne fait aucun doute que cette défaite doit aussi être vue comme une faillite du masculin. Dans les vers de la Marseillaise, hein, ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils, nos compagnes. C'est le rôle des hommes de l'empêcher. Eh bien, il ne fait aucun doute qu'en mai-juin 40, les hommes ne l'ont pas fait. On prête à Arletty beaucoup de propos, mais entre autres, cette fameuse réplique, eh bien, les Allemands, il ne fallait pas les laisser rentrer. Je n'ai jamais pu vérifier si c'était vrai ou pas, mais il y a cette idée-là. C'est-à-dire que les hommes de France n'ont pas pu empêcher, contrairement à leur père, au cours de la Grande Guerre, l'armée allemande d'envahir le pays. Donc on a cette faillite masculine, et puis on a 2 millions de prisonniers, une occupation et une résistance qui va être extrêmement faible numériquement, en tout cas à ses tout débuts. Et on va s'apercevoir là aussi qu'un certain nombre de femmes vont être présentes dans cette résistance. Alors sûrement pas plusieurs centaines de milliers, comme le proclamait Schumann sur les ondes de Radio Londres, qui parle de ces centaines de milliers de femmes qui combattent. Non, sûrement pas. Mais quelques-unes, de plus en plus, avec des hommes dans la résistance clandestine. Et on a finalement, je crois, la conjonction de deux phénomènes. Tous les précédents dont je vous ai parlé rendent cela possible, plus facile. Mentalement, il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui a changé et cela devient possible. Et puis, un manque d'hommes, sans aucun doute, pour combattre. C'est-à-dire que vu les effectifs extrêmement réduits de la résistance au début, on va accepter tout le monde, y compris les femmes qui viennent de ce point de vue-là pour combattre. C'est le cas dans la France libre, où là aussi, elles sont 30 au début, à Londres, en novembre 40, mais au fur et à mesure, est créée les forces auxiliaires de l'armée de terre, elles seront 14 000 en septembre 1945. Donc là aussi, 14 000, c'est sûrement pas un effectif considérable parmi la population des femmes de ce pays à l'époque, mais on n'est plus simplement dans l'anecdote. Il se passe quelque chose, il y a de véritables changements en cours. Bon, moi, je dépasse un petit peu, par contre. Je vais conclure. Non, ça... Bon. Ce qui est intéressant de voir dans le propos d'un certain nombre de ces femmes qui s'engagent, c'est que certaines d'entre elles veulent venir combattre. Et elles ne vont pas toujours avoir cette possibilité. On va là aussi les mettre dans des tâches annexes, transmission, conduite. Mais beaucoup d'entre elles tiennent un discours où elles expriment ce souhait du combat. J'en citerai deux. Suzanne Traverse, qui a été dans l'armée de la France libre en Afrique, qui était conductrice, et qui dit à un moment « J'aurais de beaucoup préféré servir la France sur le front qu'en étant... » À ce moment-là, pardon, elle était infirmière. C'est ensuite qu'elle devient conductrice. « Qu'en étant infirmière, après tout, je savais conduire et tirer au fusil. » Ou Jeanne Boeck, résistance, parachutée en Bretagne, d'Angleterre, donc pour former des maquisards à manier les explosifs, qui sont très surpris la première fois qu'ils voient cette femme arriver. Ils ne s'attendaient pas à voir une instructrice pour manier les armes et les explosifs. Elle est instructrice, mais elle n'a pas le droit elle-même d'utiliser de mitraillette. Donc elle peut simplement apprendre l'usage des armes, mais sans avoir sa propre arme. Et la présence des femmes lors du débarquement de Provence, que je montrais tout à l'heure, avec une anecdote à leur propos. Ce sont donc pour une partie d'entre elles les auxiliaires du service des transmissions. J'avais eu l'occasion d'assister à des entretiens qu'elles avaient pu faire. Elles débarquent le 16 août, il y a des combats. Elles se retrouvent, elles ont fait quand même toute la campagne d'Italie, hein. Elles sont engagées en Tunisie ou en Algérie, elles débarquent en Italie, elles font toute la campagne d'Italie, le débarquement en Provence, la campagne de France, et elles continueront la campagne en Allemagne. Donc des gens qui ont un parcours de guerre non négligeables. En Italie, elles étaient logées de monastère en monastère par l'armée française au fur et à mesure de l'avance extrêmement lente, je vous le rappelle, du front. Mais là, il n'y avait pas le temps de trouver un monastère pour les loger. Donc elles arrivent le 16 août, et évidemment le 16 août au soir, on est dans une zone de combat, rien n'est prévu. Et donc à ce moment-là, on trouve une grange, et l'officier qui les suit va leur donner des grenades pour se défendre. En fait, c'est la première fois qu'elles ont des armes, elles étaient au service de transmission. Et à la fin, je leur pose la question, mais pour vous défendre de qui ? Et elle dit, ben, des hommes, évidemment. C'est-à-dire qu'il y avait, vous comprenez, des Allemands, les Américains, les troupes coloniales. Il fallait qu'on puisse se défendre des hommes. Donc sur toute la campagne du sud de l'Italie, de la Sicile jusqu'à l'Allemagne, la seule fois où ces femmes-là, il ne faudrait pas en tirer une généralisation, sont armées, c'est pour se défendre des hommes le 16 août 1944. Je voudrais terminer sur le sens que tout ça peut prendre. Certes, la plupart des auxiliaires féminines de l'armée de terre, le corps a été supprimé pour une partie d'entre elles juste après la guerre. Quelques-unes ont continué en Indochine ou en Algérie. Mais il y a eu, après la guerre, là aussi, une sorte de réduction des effectifs. On a dit à ces femmes, vous n'avez plus votre place dans l'armée. Néanmoins, si on regarde depuis donc 60 ans maintenant les changements opérés, on s'aperçoit à l'échelle internationale, par exemple, que la Convention de Genève 49 va prendre de manière bien plus développée le cas des prisonnières de guerre, ce qui n'était pas forcément envisagé avant. On a là aussi un changement du point de vue des accords internationaux. Et puis, évidemment, en ce qui concerne la France, en 1944, le droit de vote des femmes, qui, je vous le rappelle, est donné du point de vue de l'argumentation, hein, sur les raisons profondes. On sait bien que le mouvement est engagé bien avant et qu'il aurait dû être, sans l'opposition du Sénat, obtenu dans l'entre-deux-guerres. Mais il y a besoin d'une légitimation par le prix du sang. C'est au nom de l'engagement des femmes dans le combat de la résistance et pour la liberté de la France que ce droit de vote est aussi obtenu en 1944. Donc on voit comment la question de la citoyenneté et du prix du sang commence à se dissocier à ce moment-là. En 1997, novembre 1997, le service militaire est suspendu, comme vous le savez. Dans l'armée professionnelle, aujourd'hui, on trouve 11% de femmes. Et il est clair, en tout cas, que dans ce pays, ce n'est plus un devoir des hommes et du masculin de combattre. Alors, l'usage du stéréotype reste fort. Rambo est quand même plus souvent une figure masculine que féminine, ça ne fait aucun doute. Mais je ne crois pas qu'il faudrait penser que ce stéréotype et son usage, il ne faudrait pas qu'il masque un changement beaucoup plus profond, selon moi, pour lesquels les deux guerres constituent des événements essentiels, où il y a une dissociation entre ce prix du sang et cette citoyenneté. Et donc il y a quand même une modification, on peut discuter sur l'ampleur, dans ce qu'est être un homme ou ce qu'est être une femme au cours du siècle. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vais passer immédiatement la parole à la salle et vous proposer s'il y a des questions.
Ah oui, j'avais oublié. Pardon, c'est la quatrième. J'avais oublié, excusez-moi, il y avait une quatrième. Voilà une affiche de recrutement, si vous me permettez deux mots. Une affiche de recrutement donc, qui date de 1942, donc qui a été affichée essentiellement en Afrique du Nord. 43, pardon. Essentiellement en Afrique du Nord. Pour recruter donc des jeunes femmes au corps féminin des transmissions. Et on voit là aussi l'ambiguïté. C'est-à-dire à la fois elles sont en uniforme, mais en même temps elles sont dessinées avec un certain nombre de la séduction, hein, ce rouge à lèvres, les sourcils très, très légèrement dessinés, la chevelure avec un filet certes pour protéger la chevelure parce que elles sont amenées à connaître les opérations, mais on voit toute cette ambiguïté. Et ces jeunes femmes ont même une inquiétude elles-mêmes sur leur identité. Une des, comme souvent dans les différents corps d'armée, vous avez les 10 commandements. Donc elles, on les surnommait les Merlinettes, nom un peu paternaliste, parce que c'est le général Merlin qui avait mis ça en place. Et un des commandements des Merlinettes était « Toute ta vie, femme soldat, ta féminité gardera ». Voilà.
Et... Oui. Alors, je vous rappelle juste que l'ensemble du colloque et des débats sont enregistrés et qui seront disponibles sur le site en ligne de la BPI. Il y aura des archives sonores, donc, et on vous demande donc de vous présenter lorsque vous posez une question. Merci.
Bonjour, Christelle Lambert, étudiante en master art de l'exposition à Metz. J'en profite pour avoir des historiens pour demander comment expliquer que, par exemple, au Danemark, les femmes aient eu le droit de vote plus tôt et qu'elles soient maintenant encore plus autonomes et plus indépendantes que les Françaises.
On va prendre plusieurs questions, oui. Sauf s'il n'y en a qu'une. Mais... Donc, vaste question. Donc peut-être on va commencer à y répondre maintenant.
Pour répondre, pardon.
S'il y a une question ici.
Annie Ferrand, étudiante en master psycho. C'était juste pour revenir sur la question de la simulation. Ce qu'a permis, enfin, il y a quand même une disparité subjective, si j'ose reprendre le terme, entre la simulation par rapport au, enfin, qui s'est appuyée sur la Première Guerre mondiale pour faire vraiment une authentification des traumatismes objectifs qui peuvent concerner les hommes. Et toute l'idéologie qui a couru sur l'hystérie et la simulation des femmes, et la reprise freudienne, et, enfin, qui est extrêmement courante encore aujourd'hui, de la simulation qui est restée par contre typiquement féminine. Donc j'aurais aimé savoir quels sont les processus comme ça qui permettent d'objectiver un traumatisme à un niveau social et de le dénier et de rester dans une logique de simulation.
Ce qui est bien, c'est que... Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Bonjour, Cécile Gatter. Donc moi, je m'adresserai à Sylvie Chaperon et je voulais vous demander comment vous interprétez le lien... Vous avez parlé donc des féministes, notamment dans les années 20, et leur réflexion liée à la sexualité. Et vous avez expliqué qu'elle défendait à la fois l'eugénisme et la contraception, si j'ai bien compris. Et donc, je voulais savoir comment vous l'interprétiez, comme l'eugénisme, c'est quelque chose qui choque beaucoup, qui nous choque beaucoup maintenant. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Je vous laisse la parole.
Bon, bah alors, sur l'eugénisme, ça nous choque bien évidemment beaucoup depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis le génocide. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, y compris dans les milieux progressistes de gauche, dans les années 10, dans les années 20, beaucoup moins dans les années 30, où les premières lois raciales commencent à être prises, adoptées en Allemagne. Donc il ne faut pas avoir un regard anachronique sur l'eugénisme. D'ailleurs, le mot eugénisme en France est contemporain de sexologie et les deux sont très très liés. Ce sont deux mouvements, le mouvement de la réforme sexuelle, de la sexologie et de l'eugénisme sont très liés. Alors, l'eugénisme vient de l'idée un peu de dégénérescence qui a été très dominante jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc l'idée qu'il y a une hérédité dégénérative, hein, de génération en génération, et que la meilleure chose à faire pour éviter cette hérédité, c'est de limiter la procréation des tarés ou des dégénérés. Le langage est très, très répandu à l'époque. Hein. Alors, il y a bien évidemment plusieurs modalités d'envisager cet eugénisme. Il peut être autoritaire, hein, avec castration obligatoire, par exemple, ou il peut être simplement promu par un discours d'éducation. C'est là où on voit la différence entre milieu de gauche progressiste et milieu de droite. Les néo-malthusiens eugénistes, par exemple, promeuvent avant tout l'éducation, la responsabilité de l'individu par rapport aux générations futures, et donc l'abstinence de la procréation en cas de tare à ne pas reconduire. D'où la contraception, le lien il est là. Et la contraception est vue autant comme un outil de régénérescence des races, le terme est employé très couramment à l'époque, que comme un moyen d'épanouissement personnel. Donc la contestation de l'eugénisme est beaucoup plus tardive, elle sera après la Deuxième Guerre mondiale. Sur le Danemark, peut-être deux mots, enfin pas sur le Danemark précisément, mais sur l'histoire comparée, qui exige de prendre en cause quantité de facteurs, parce que le droit de vote n'est jamais qu'une date qui est la résultante de plusieurs forces culturelles, sociales, politiques, qui ne signifie pas d'ailleurs forcément une plus grande égalité des sexes, qui peut signifier, par exemple, les premiers pays à avoir donné le droit de vote aux femmes, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. C'est essentiellement parce qu'il y a dans ces pays-là, du fait de leur histoire de pays d'émigration, de la vieille Europe, un sexe ratio en défaveur des femmes très énorme, de sorte qu'on n'a absolument pas peur de féminiser un corps électoral qui est de toute façon très masculin. À l'inverse, en France, en 1944, au moment donc où est prise l'ordonnance du 21 avril, le sexe ratio électoral est très favorable aux femmes. Elles sont plus de 60% dans le corps électoral, d'où d'ailleurs des réticences très importantes à l'Assemblée consultative d'Alger, du fait de ces prisonniers qui ne sont pas encore revenus, alors qu'on veut des élections très précoces. Alors, je donne l'exemple du sexe ratio, mais il y a bien évidemment quantité d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Les forces politiques, et en France, le Parti radical très important au Sénat, très anticlérical et donc ayant peur de réintroduire l'Église par le vote des femmes a joué un rôle de blocage, des freins culturels, des freins également dans les traditions constitutionnelles ou dans la façon de voir la citoyenneté, hein, qui est un peu sur le modèle du tout ou rien en France, et très lié, on vient de le voir, à la définition du soldat citoyen. Donc c'est toujours très compliqué de donner une réponse monolithique à cette question. C'est toujours la résultante de facteurs convergents assez compliqués.
Et puis, pour ajouter un mot à propos du Danemark, je crois que quand en effet on fait une histoire comparative entre les différents pays, ou l'histoire à l'échelle du continent, on s'aperçoit qu'il y a quand même des tendances lourdes. Et c'est vrai que l'acquisition des droits politiques par les femmes sont, disons, une tendance lourde du siècle, avec ensuite des modalités différentes selon les pays. Et ces décalages, on les observe sur certains aspects, sur d'autres aspects, on ne les observe pas. Je prendrai un exemple que je connais bien, qui est la question des femmes tondues. En France, on est frappé par la simultanéité des deux phénomènes, enfin, quelques mois d'intervalle, et ça a du sens, on peut l'expliquer. Au Danemark, il n'y a pas simultanéité, puisque le droit de vote est bien antérieur, mais il y a également pratique massive de tontes de femmes accusées de collaboration au Danemark. Et là, on a, du point de vue des différents pays européens, le même type de violence envers les femmes pratiquée, en gros, dans un même contexte identique, puisqu'on a quand même cet événement, je dirais, européen, qui est la guerre, l'occupation, et ensuite la victoire. Voilà pour le Danemark. Alors, à propos de la simulation, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je ne vais pas répondre à votre question telle que vous l'avez formulée, parce que, justement, je suis, disons, historien, pas psychologue ni psychanalyste, et ce n'est pas pour me défausser par une pirouette, mais je suis parfaitement conscient, et vous avez raison de souligner, que la simulation est quelque chose, un concept important en psychanalyse et en psychologie, qu'elle est différenciée en fonction des femmes et des hommes, et qu'il y a différents discours sociaux ou savants sur cette question-là. Je vous avoue très humblement que je n'ai pris que la dimension qui m'intéressait autour de la question du combat et de ce débat entre militaires et psychiatres autour de la simulation à l'occasion du combat. Parce que ce qui m'intéresse à ce moment-là, ce n'est pas une histoire de ce qu'est la simulation qui est tout à fait intéressante et légitime, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment quel est le rapport au combat du point de vue de l'identité masculine. Voilà. Donc, excusez-moi pour cette non-réponse. Pardon.
Est-ce que vous pourriez...
Excusez-moi.
D'accord. Kate Merrill, je suis étudiante à Paris 1.
Merci.
Et Fabrice Frégély, est-ce que vous pourriez comparer les rôles des femmes aux États-Unis que les femmes en France pendant la Deuxième Guerre mondiale? Parce que, en fait, la guerre n'était pas sur la terre américaine. Alors, ça a dû changer les rôles, vraiment.
Oui, il y a une différence.
Pardon. Je crois.
Irène Sugy, chargée d'édition au Centre Pompidou. Je voulais vous poser une question à Fabrice Virgili, qui ne serait pas une question à l'historien, mais plutôt à un fait d'actualité qui était lié à cette affaire de torture par une soldate américaine. Et je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de saisir dans le traitement qui avait été fait de cet événement, un traitement en lien avec ses rôles assignés ou pas.
Encore d'autres noms, sujets. Bon. Pardon. Oui, d'abord à propos des. Enfin, les deux questions finalement sont aussi à propos des États-Unis, mais d'abord en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et la France, c'est vrai, comme vous le soulignez, la différence majeure, mais c'est vrai aussi avec l'Angleterre dans une moindre mesure, parce que l'Angleterre a connu les bombardements, c'est l'occupation et la présence de l'ennemi sur le sol. Et c'est vrai que ça change. Fondamentalement, ce qu'est l'expérience de guerre vécue par les hommes et par les femmes, et vécue par la société française ou la société américaine. C'est-à-dire que la présence de l'ennemi, la présence des combats, et donc ce brouillage qui existe entre le civil et le militaire, et aussi le féminin et le masculin, et aussi le front et l'arrière qui existe en France, n'existe évidemment pas aux États-Unis. Ce qu'on a aux États-Unis, c'est quelque chose qui est finalement plus classique, entre guillemets, et qui correspond plus à la situation de la Première Guerre, où même si les combats avaient lieu en France, où il y a séparation nette entre le front et l'arrière. Mais qu'on nomme en anglais, d'ailleurs, « home front », ce qui n'est pas tout à fait l'expression française, puisque en France, on parle de front et d'arrière, alors qu'en Angleterre ou les États-Unis, on parle bien de « home front ». Donc là, on a une véritable différence. Par contre, là où il y a quelque chose de commun, c'est dans la mobilisation faite envers les femmes américaines pour soutenir le combattant, ou alors pour une partie non négligeable d'entre elles, comme auxiliaires, et qui vont se retrouver en Europe de manière assez massive, si on compare avec les effectifs militaires d'autres armées, évidemment minoritaires par rapport à la population féminine américaine, mais on a quand même cette expérience de femmes qui vont se trouver sur le théâtre européen au cours de la Première comme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a une vraie différence. Je crois qu'il ne faudrait pas y voir qu'une différence du point de vue du genre. C'est-à-dire que c'est une différence, je dirais, fondamentale de ce qu'est l'expérience de guerre dans la société américaine et la société française, dont le genre éclaire un aspect, mais ne serait pas le seul. Alors, à propos de évidemment, c'est les photographies, et pas que les photographies, la réalité des tortures exercées à Abu Ghraib, et entre autres exercées par des femmes sur des hommes. Alors bien sûr, il ne m'a pas échappé que la dimension sexuée était mise en avant, et qu'il y avait même un usage de celle-là à des fins de torture et d'humiliation sur place, mais aussi dans la lecture qu'on pouvait en faire. Le fait que soient mis en avant justement des femmes torturant des hommes, je dirais, à une dimension qui est à la fois nouvelle, mais en même temps dont on peut repérer d'autres éléments. Parce qu'au cours des conflits, que ce soit 1870, 14-18 ou 39-45, on va chaque fois avoir des exemples de cruauté féminine. Parce qu'il y a une dimension, un personnage qui est la femme cruelle, dont on retrouve des exemples au cours de chaque conflit et dont on a là aussi un exemple. Donc ce n'est pas aussi nouveau et exceptionnel qu'on a bien voulu le penser. Là où il y a quand même quelque chose de très différent. C'est évidemment dans la diffusion extrêmement massive et dans l'utilisation manifestement par ceux qui veulent torturer ou humilier leurs prisonniers masculins de femmes à cette fin-là. C'est-à-dire que le fait que ce soit des femmes qui torturent est un élément manifestement supplémentaire dans l'humiliation faite envers ces prisonniers. Et là, il y a probablement une dimension nouvelle. Donc, voilà à peu près les deux choses que je pourrais dire à ce propos.
Florence Moreno. Je voudrais demander à Fabrice Virgili à propos de Jeanne d'Arc, dont il a donné le modèle de combattante. Je viens de travailler sur les otages qui ont été Florence Aubenas et encore Ingrid Bédancourt, et je suis frappée par la comparaison avec Jeanne d'Arc qui revient très souvent dans les médias. Jeanne d'Arc, là, n'étant pas vue comme vierge en l'occurrence, ni peut-être comme combattante, mais comme otage. Alors, la polysémie de la figure de Jeanne d'Arc au XXe siècle est très intéressante. Et qu'en est-il aujourd'hui ?
Est-ce qu'il y a une autre question pour qu'on fasse de nouveau un petit package ? Oui, Isabelle ? Vous n'oubliez pas de vous présenter.
Éric Fassin, j'avais une question pour Fabrice Virgili et un commentaire pour Sylvie Chaperon, commentaire sur le commentaire. La question, c'était les travaux sur les questions de genre en liaison avec les questions de guerre, les questions militaires, etc. En anglais, ont pour partie porté sur la question homme-femme, mais pour partie sur la question homosexualité. Et en particulier, l'idée que la Deuxième Guerre mondiale avait joué un rôle important dans la constitution d'une culture homosexuelle, d'une identité homosexuelle, enfin bon, quelque chose de ce genre-là, ça a joué un rôle important. Et de même, dans les années 90, donc pas simplement avec un regard historique rétrospectif, mais au début des années 90, au moment de la guerre du Golfe et dans les années qui suivront sous Clinton, il y a à la fois la question de la place des femmes dans l'armée, y compris avec les histoires de harcèlement sexuel, et la question de la place des homosexuels dans l'armée. Donc je me demandais si, côté français, il y avait eu cette double dimension, à la fois homme-femme et homosexualité, hétérosexualité. Et pour Sylvie Chaperon, un commentaire, enfin, dans le prolongement de la question et du commentaire sur l'eugénisme, je pensais que dans le cas des États-Unis, effectivement, enfin, il est clair que le sens du mot eugénisme, enfin, que le mot eugénisme est moins bien porté aujourd'hui qu'il ne l'a été il y a un siècle, mais il me semble que néanmoins, peut-être, ce n'est pas entièrement anachronique d'exporter les questions d'aujourd'hui vers le passé, puisqu'il y avait quand même déjà des enjeux assez clairement, même si l'eugénisme n'était pas compromis de la même manière, il y avait en gros une question raciste qui se posait de manière assez explicite. C'est-à-dire que pour une part, le féminisme s'est légitimé, par exemple avec quelqu'un comme Margaret Sanger, en faisant alliance avec l'establishment médical et en essayant de conjurer l'opposition au féminisme qui voudrait contrôler les naissances avec la crainte du suicide de la race, c'est-à-dire du suicide de la race blanche, en se disant si les femmes contrôlent les naissances, il n'y aura plus assez d'enfants, il n'y aura plus, etc., mais surtout il n'y aura plus assez d'enfants blancs. Donc en gros, là il y a un tournant dans le féminisme qui s'est joué autour de la question de l'eugénisme, qui était de dire que le contrôle des naissances, ce n'est pas seulement pour nous, femmes blanches, mais pour elles, c'est-à-dire les immigrés, les noirs, etc. Donc l'enjeu politique, il était quand même très explicite à l'époque. Donc c'est juste un commentaire de commentaire.
Et peut-être une dernière question également. Oui. Et puis ensuite, je vous propose qu'on laisse évidemment les conférenciers répondre et qu'on arrête cette table. Enfin, parce qu'il est l'heure.
Donc c'est de nouveau Christelle Lampert du Master Art de l'Exposition et Scénographie à Metz. En fait, c'était une question pour Madame Chaperon. Vous aviez cité Kinsey, Simone de Beauvoir et Geneviève Dexier. Et moi, j'avais lu un ouvrage de Shir Hit qui avait aussi rassemblé pas mal de questionnaires sur la jouissance féminine. Vous ne la citez pas parce que c'est plus populaire, parce qu'elle est plus récente, parce qu'elle n'a rien apporté de nouveau ou autre. Merci.
Voilà.
En fait, des politesses. Je ne la cite pas parce que je n'ai pas eu le temps. Elle est dans mon texte et elle est bien évidemment capitale. Ceci dit, ce n'est pas le même contexte historique. Hein. Kinsey Beauvoir, c'est les années 40-50. Haït, on est en plein dans cette vague de révolution sexuelle. Hein. Le rapport Haït a joué un rôle très, très important. Non, non, elle est là. Je ne l'ai pas citée uniquement parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai sabrées. Et, voilà. Il y avait... sur l'eugénisme. Oui, non, mais sur l'eugénisme, c'est évident. Et le féminisme n'est pas immunisé ni contre le racisme, ni contre le sexisme, d'ailleurs, ni contre les préjugés de classe. En France, quand on regarde la revue de Bertie Albrecht, qui a à peu près 6 numéros et qui promeut tout à la fois la réforme sexuelle et l'eugénisme, on est frappé de voir que l'eugénisme est préconisé sur... ce sont d'ailleurs beaucoup de traductions à partir de textes anglais ou américains. L'eugénisme est préconisé essentiellement sur des familles de dégénérés qui, par hasard, sont très pauvres. Hein. Donc il y a aussi une vision des classes sociales modestes comme étant par nature presque dégénérées et sur lesquelles devrait s'exercer en priorité un eugénisme. Donc tout à fait, il y a des pas des alliances politiques, parce que la chose n'est pas formulée aussi clairement, mais il y a des dérives politiques très nettes dans l'eugénisme dès les années 20 et 30. Ouais.
À mon tour, à propos de l'homosexualité, oui, je crois que vous avez raison de souligner la différence qu'on peut observer du point de vue des recherches aux États-Unis ou en France, où la question a été, du point de vue de la guerre, très peu, ou on peut presque dire pas étudiée. Pour m'y être un peu intéressé, à force de consulter les archives de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas que je connais mieux, et en avoir discuté avec plusieurs personnes, collègues, les traces sont très 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 rares, peu nombreuses. Autant on en trouve au cours de la Première Guerre mondiale. J'ai trouvé d'ailleurs toute une correspondance entre Girard et Poincaré, Girard étant le gouverneur responsable de la Rhénanie au moment de l'occupation française de la Rhénanie, et donc Poincaré, président du Conseil, sur une rumeur qui circulerait en Allemagne, comme quoi les Français auraient installé des bordels homosexuels pour la troupe en Rhénanie. Et il y a une dénonciation de cette rumeur, et Girard disant, ou Poincaré, je ne me souviens plus lequel des deux d'ailleurs dans cette correspondance, mais l'un des deux disant que en aucun cas les soldats français ne sauraient être homosexuels, qu'à l'époque il est bien connu que l'homosexuel est un vice allemand, puisque l'ennemi c'est l'allemand, et sûrement pas français. On observe au cours des différentes périodes que l'homosexualité est un vice évidemment d'un autre pays et que le pays change en fonction des représentations qu'on a de l'autre, ennemi ou pas d'ailleurs, c'est pas simplement des ennemis, au cours de la période. Donc ça on l'observe pour la Première Guerre et l'immédiate après-guerre, pour la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai que je n'ai quasiment jamais rien trouvé évoquant l'homosexualité. Oui, il y a une attaque du PPF contre Muselier qui, pour ceux qui ne le savent pas, quitte Toulon pour rejoindre la France libre et qui est accusé nommément dans la presse du PPF d'être homosexuel. À propos des prisonniers et dans leur correspondance, très peu de choses. Enfin, il y a quelques indices et j'espère prochainement avoir, enfin, en tout cas avec d'autres collègues, on ait l'occasion d'en dire un peu plus sur cette question. Mais c'est vrai qu'on a toujours trouvé très peu de choses. Et c'est surprenant, finalement, à quel point les différentes archives et sources que la société française produit à cette époque-là sont silencieuses à propos de l'homosexualité.
Mais en anglais, c'est beaucoup passé par l'histoire orale. Et pour cause.
Oui, non, mais... Donc, une piste à suivre, des recherches à faire. À propos de la figure de Jeanne d'Arc, il m'avait échappé qu'il y ait cette référence à Jeanne d'Arc à propos des otages. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant et qui montre finalement peut-être que la figure est en train, enfin, d'une certaine manière, est moins utile. En tout cas, plus de la même manière. C'est-à-dire qu'avant, il était clair, il me semble que c'était la figure de la femme combattante qui sauve son pays, le roi, héroïne. Et c'est ça qui était mis en valeur. Alors, différemment, selon les enjeux et les partis pris idéologiques en fonction des périodes, mais c'est cette figure-là. Le fait qu'elle soit présentée comme victime, évidemment, et non plus comme combattante, et aussi montre que la nécessité n'est plus la même et qu'on a peut-être moins besoin d'icônes guerrières qu'à une époque où, finalement, les femmes ne sont pas du tout dans la guerre, en tout cas comme combattantes. Voilà, c'est juste une remarque à ce propos.
Pas de regret. Donc, merci beaucoup, merci infiniment. Je vous propose que l'on fasse une courte pause et qu'on se retrouve dans un quart d'heure pour écouter Sabine Procoris.